C'est vrai qu'on était tranquille. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de service. Mon coquin de technicien, il a mis ça off, on immédiatement. Bonjour. Et voilà, c'est l'édition Les Voix de service magazine du vendredi 11 janvier 2019. Nous sommes de retour. Et oui, l'équipe du vendredi est de retour. Hélène Bédard au micro et j'ai ma fidèle collaboratrice qui est avec moi.
Bonjour Hélène, mes meilleurs voeux pour 2019 à vous tous et toutes, chers auditeurs, à vous Hélène aussi. Alors, on va se la souhaiter très belle sur le plan numérique.
Merci.
Je parle pour ma
Oui.
paroisse, comme on dit.
Oui, moi aussi, je vais parler pour ma paroisse, moi qui m'occupe du volet senior. Alors, je vais me la souhaiter bonne et douce et en santé. À la régie, nous avons évidemment mon fidèle Mathieu Tessier. Bon matin, Mathieu. Ouh, voilà. Alors voilà, dans un petit moment, nous allons vous parler de plusieurs sujets. En ce qui me concerne, je vais conserver le volet senior, c'est-à-dire je vais vous parler de comment mieux vieillir en 2019. Je vais vous parler aussi de quelqu'un qui, ça fait 70 ans qu'il conduit sans accident. Ah, c'est quelque chose quand même. Et voilà, et Francine va vous parler de...
Alors moi, je vais vous parler beaucoup de numérique, comme je vous ai dit, de
Ouais.
cybersécurité et un petit saut dans l'espace. Je vous ai déjà parlé du propriétaire de Virgin qui, évidemment, rêve d'aller dans l'espace et d'amener des gens dans l'espace. Il a fait un essai récemment et je vais vous résumer un article de Paris Match, je m'excuse, qui en parle.
Il ne va pas aller compétitionner notre monsieur Saint-Jacques tout de même.
C'est autre chose.
Ok, d'accord, c'est autre chose. J'ai bien hâte de vous entendre. On vous revient dans un court moment. Alors voilà, nous sommes prêtes à vous faire part de nos découvertes. Je laisse Francine débuter.
Oui, alors je vais commencer par des questions de cybersécurité. Alors, je trouve que c'est bien de commencer l'année en vérifiant pour voir si non seulement on fait ce qu'il faut pour soi-même ne pas attraper trop de virus, mais aussi pour notre environnement numérique. Alors, c'est un texte qui a été publié le 5 janvier 2019, Karim Benissaï, qui dit « Posons-nous les vraies questions. Virus, rançongiciel, crypto-jacking, ordinateurs zombies, c'est toutes des menaces informatiques classiques. Se sont ajoutées à ces menaces d'autres inquiétudes plus diffuses, notamment sur la vie privée. Entre les assistants vocaux, dont on craint les indiscrétions, les téléphones Android réputés moins sûrs et des courriels de cyberpirates qui ont l'air trop bien informés, qu'est-ce qu'il faut croire exactement? Est-ce que c'est vrai que nos assistants vocaux nous espionnent? C'est une question complexe qui génère son lot de réponses alarmistes et de demi-vérités. Voici les faits reconnus. Les assistants vocaux, comme le Google Home, l'Echo d'Amazon et le HomePod d'Apple, sont constamment en mode écoute, mais n'envoient aucun enregistrement en attendant le mot déclencheur. OK Google, Alexa ou Siri. Ils saisissent alors la demande, envoient l'audio au serveur de l'entreprise où il est analysé et se remettent en écoute passive. Ce sont ces bouts d'enregistrement qui constituent l'espionnage. Ils sont stockés et liés à un utilisateur précis, bien qu'Apple utilise un brouillage pour les rendre anonymes. Ils sont essentiellement utilisés pour améliorer la reconnaissance vocale et viennent enrichir le profil de leur utilisateur. Leur utilisation pour la publicité ciblée n'est pas démontrée. Précisons ici qu'il s'agit du même processus pour les téléphones intelligents ou tout appareil doté de reconnaissance vocale comme un téléviseur. C'est clairement un risque, estime Sébastien Gomes, professeur en informatique à l'Université du Québec à Montréal. La solution, ce serait que tout soit traité localement. C'est toujours mieux que les données restent chez l'utilisateur. Ceci dit, ces assistants vocaux, dont le système est entièrement contrôlé par le fabricant, sont nettement moins à risque qu'un téléphone intelligent. Celui-ci a également un micro, mais dispose d'une caméra, envoie les coordonnées GPS et les courriels de son propriétaire et est pollué par des dizaines d'applications de sources parfois douteuses. Alors, je vais m'arrêter ici, étant donné que c'est là que je dois m'arrêter. Question de synchronisation, c'est technique, avant que Mathieu me réprimande. Mais je vais continuer parce qu'il y a plusieurs questions très, très pertinentes qui sont posées avec des réponses ou des éclaircissements. Et je sais qu'Hélène, ça vous préoccupe beaucoup, ces questions de sécurité informatique. Et comme on dit, moi aussi.
Oui, alors voilà, de mon côté, je vais vous... Enfin, je vais vous faire part d'une petite nouvelle ici qui s'intitule comme suit. Apprendre à mieux vieillir en 2019. Ben, on va tout essayer de faire ça au mieux. C'est dans le Nouvelliste et c'est un éditorial écrit par M. Daniel Brouillette. Comme il dit, on va se parler des vieux. Et le mot vieux ici est utilisé avec le plus grand respect, évidemment, et vous comprendrez. Quand on vieillit, ça se peut que la vie soit bonne et qu'elle nous garde en forme longtemps. Très longtemps pour les plus chanceux. On se le souhaite tous. Mais ça se peut aussi qu'on devienne un peu des semi-autonomes. Semi-autonome, ça veut dire, c'est quand on a besoin d'un coup de main pour s'habiller. Ça peut aussi être, on a besoin à n'importe quel moment du jour de changer peut-être sa culotte d'incontinence. Ça peut être quand on a besoin d'être accompagné pour se laver dans la douche ou au bain. Ça peut être aussi la nuit quand on se réveille avec une angoisse de grand-maman ou une angoisse de grand-papa. Ça peut être aussi quand on vieillit et on ne s'est pas aperçu qu'on avait vieilli. On est semi-autonome quand on répète la même chose deux puis trois fois dans la dernière demi-heure. Puis on ne sait pas qu'on l'a répété. L'État dit ceci, en période électorale, on va s'occuper de toi à la maison, on va venir vous voir le matin, le midi, le soir. C'est un soi-disant autonome à la maison, comme c'est bien défini. Mais on se fait des comptes, ça paraît bien, et on se les raconte aussi. Mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. La différence entre un vieux dans le monde des Kalinours et un vieux dans la vraie vie, c'est bien différent. La protection du citoyen va encore dénoncer dans son rapport 2018, qu'il y a un manque de soins à domicile pour les personnes âgées. Vous dire combien on est tanné d'entendre ce radotage. Sincèrement, pensons-nous réellement que nous pourrons répondre à toutes les demandes de maintien à domicile? Combien de fois le préposé devrait-il aller à la maison pour la madame ou le monsieur semi-autonome pour ouvrir son dispositif à pilule à chaque repas? Parce que la madame ou le monsieur a perdu la motricité fine pour l'ouvrir. Dans la vie, quand on est vieilli, on est des fois moins chanceux avec notre santé, puis on a besoin d'un peu plus de soins. On a vu aussi des maintenus à la maison usés. On a vu aussi des maintenus à la maison oubliés. Trop usés d'être restés dans leur belle maison, refuser l'aide par orgueil des fois, penser qu'on était encore bien capable, à attendre sans quémander. Des fois, il faut savoir partir à temps et surtout se dire la vérité à cet effet. Arrêtez de se faire désaccroire à mon vieux moi-même. Il faut apprendre à vieillir, apprendre à lâcher prise. Ou dire que mon essentiel quand je serai vieux ou vieille, ce ne sera pas d'être gardé longtemps chez moi, mais d'être vraiment aimé et respecté partout. En tout cas, moi, ça ne me tente pas de vieillir tout seul, malade et dans ma lucarne. Je le répète deux et trois fois, je nous souhaite à tous d'apprendre à mieux vieillir en 2019. Secret heart. Three.
secret heart? Why so mysterious? Why so sacred? Why so serious? Maybe you're just acting tough. Maybe you're just not man enough. What's wrong? Let a man on your secret heart. This very secret that you're trying to conceal is the very same one that you're dying. Secret heart, come out and share it. This loneliness, few can bear it. Could it have something to do with admitting that you just can't go through it alone? Let a man on your secret heart. This very secret.
Chanson de 1995 de Ron Sexsmith, mais ici chantée par Feist. C'était une demande spéciale de Julia.
Oh, voilà, très précis. Merci, merci Mathieu. Alors voilà, nous, on reprend le temps. La quête de Francine de nous informer comme il faut sur la sécurité.
La cybersécurité.
Cybersécurité,
oui,
merci. Oui,
alors, Oulia, on va se transporter de 1995 à 2019. Je vous ramène à la réalité. Ce sera moins poétique. Souvent, on se dit que les systèmes d'exploitation Windows et Android sont plus vulnérables que les produits Apple. Est-ce vrai? Non. Rien dans la programmation de Windows ou d'Android ne les rend particulièrement vulnérables. C'est vraiment une légende urbaine, dit Marc-André Léger, qui est chargé de cours à l'Université Concordia, spécialiste en technologie de l'information. Windows et Android sont plus touchés par les cybermenaces parce qu'ils sont plus populaires, rappelle-t-il. Si tu es un pirate, tu vas t'attaquer aux 90 % d'ordinateurs sur Windows et non aux 9 % sur Mac. À moins d'avoir une dent contre Apple. Il estime qu'un antivirus est tout aussi nécessaire pour un MacBook que pour un PC roulant sur Windows 10. Il y a une nuance, ajoute cependant Alexis Doré-Jonca, qui est chef d'équipe de renseignement de la sécurité au bureau montréalais D7. Les applications Android offertes sur le Google Play Store sont moins bien contrôlées que les applications qu'on trouve sur l'App Store d'Apple. Google est beaucoup plus permissif et les vérifications sont plus faibles. Donc, nous allons en prendre note, n'est-ce pas? Je continue avec une question qu'on se pose souvent. Je vous rappelle que cette question, elle nous vient de Karim Benessaï, qui est l'auteur de ce dossier dans la Presse Plus, publié le 5 janvier 2019. Comme bien des usagers, j'ai reçu dernièrement un courriel menaçant contenant un de mes mots de passe sur l'Internet. Son auteur affirme avoir installé un virus sur mon appareil qui lui permet de me filmer et de voler mes mots de passe. Est-ce que je dois m'inquiéter? Ça vous inquiète, Hélène, ou pas?
Ouf, ça m'est jamais arrivé, ça.
Non, ça vous est jamais arrivé? Bon, mais plaignez-vous pas, parce que c'est pas ce qu'on souhaite, là, hein, que ça nous arrive. Non, 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 c'est
ça. Je pense que c'est un fake news.
Oui, c'est un fake news, vous pensez?
Ouais, je pense.
Bon, bon, bon. Alors, donc, je continue. La réponse, c'est encore non.
Ah,
vous avez raison.
Voilà.
Si le pirate avait vraiment quelque chose de compromettant, il vous en donnerait un aperçu, tout simplement. J'en ai reçu, moi aussi, dit Marc-André Léger. Beaucoup de sites se font hacker. Pensez à Yahoo et ses 3 milliards de comptes. Ces banques de données circulent. Les pirates prennent une chance. C'est pas individualisé, c'est un petit programme qui envoie des centaines de millions de courriels. Les pirates tablent sur le fait que bien des utilisateurs utilisent le même mot de passe partout sur l'Internet, ce qu'on ne devrait jamais faire, mais c'est tellement plus facile, sinon on les oublie, c'est un commentaire éditorial qui s'adresse à moi-même. C'est vraiment ingénieux, ça frappe l'imagination, dit Alexis de Réjonca. C'est très low-tech comme attaque. Ils acquièrent des bases de données piratées et vont à la pêche. Le monde des cyberpirates est plutôt spécialisé. Certains sont des pros pour percer les défenses des serveurs. D'autres vont tenter de rentabiliser l'opération. Si la première partie est relativement facile, la seconde demande plus de temps et d'attention si on veut s'attaquer à une personne en particulier. D'où l'intérêt de ces envois de masse qui peuvent être rentables si une infime fraction des internautes interpellés tombent dans le piège.
Je pense qu'il ne faut pas répondre à ces courriels-là.
Ben,
ou ces attaques.
Moi, je dirais, je pense que quand on les reçoit, la meilleure chose, c'est de les éliminer tout de suite. C'est ça, exactement, oui, de les déliter. C'est plus facile de les déliter que de les éliminer. Vous avez bien raison. Quand on dit éliminer, on ne sait plus si c'est ce qu'on doit faire ou.
Pour moi, déliter, c'est comme si je pesais dessus. Là. Je
oui, c'est ça. C'est plus vrai. Alors, je vais continuer un peu plus tard cet article.
Eh bien, moi, en attendant de retourner voir si à mon ordinateur, je vais vous suggérer ceci. Marchez donc pour votre propre santé. Ma collègue, moi, qui est ici en studio, c'est une grande marcheuse et je sais que ça va tomber dans la bonne oreille. C'est un physiothérapeute qui écrit ce texte, c'est Denis Fortier. Alors, avec la marche, c'est clair qu'on peut se maintenir en santé. Ça, c'est quel que soit notre âge, 50, 60, 70, 80, la marche nous procure des bienfaits très, très significatifs. Ça, c'est clair. Je connais des marcheurs de 85 ans et plus qui sont en excellente santé et qui sont en mesure de soutenir un niveau d'intensité assez élevé. Par ailleurs, la pratique de la marche ne commande pas d'être un athlète. La marche, c'est possible même pour les gens qui ont perdu un peu de leur capacité physique. Et oui. Et le plus beau dans tout ça, c'est que la marche, c'est une activité qui ne coûte rien, une activité qui peut se pratiquer n'importe où, et on peut le faire seul ou en groupe, c'est selon. Quels sont les bénéfices que procure la marche? Bien, il y en a plusieurs. Le premier, c'est l'aspect prévention. Prévention du diabète, prévention des maladies cardiovasculaires. Le second, bien, il semblerait que ça retarde l'apparition des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Bien, c'est pas beau, ça. Et la troisième, c'est ça contribue à stimuler un grand nombre de groupes musculaires. Les plus gros muscles du corps, les muscles du dos, les muscles des fesses, des jambes, ces muscles-là, on a souvent tendance à les oublier. On les oublie parce qu'on ne les fait pas pratiquer. Et surtout quand on avance en âge, puis là, j'ai envie de dire, surtout quand on est retraité. Il y a des petites choses qui deviennent faciles, on devient inactif, alors on reste plus souvent en position assise. Mais la marche pratiquée régulièrement vient compenser tous ces effets négatifs entraînés par une position assise prolongée. À quel rythme, maintenant, on doit marcher? Bien, pour marcher, d'abord, ça prend des chaussures confortables. Puis, je vous dirais, environ 150 minutes par semaine. Par exemple, pour l'illustrer, vous devez pouvoir parler quand vous marchez, mais ne vous permettrez pas de chanter. Alors voilà. Non, ma collègue me regarde avec des grands yeux.
Explication, s'il vous plaît.
Non, c'est parce que c'est une recommandation. C'est si vous marchez, par exemple, 75 minutes par semaine, vous avez un effet positif sur votre santé. Mais si vous allez au-delà de votre capacité, vous êtes plus capable de marcher, de parler en marchant, c'est que vous allez peut-être trop vite pour votre capacité. Mieux vaut y aller graduellement. C'est ceci. Enfin, c'est amusant. Je vais l'essayer, ça c'est sûr. Une autre façon de calculer, c'est de compter ses pas. Alors ça, il y a des façons très, très populaires. Il y a les montres, il y a les montres intelligentes, il y a aussi les appareils de téléphone qui nous permettent ou encore de le faire, ou encore un podomètre. Un podomètre, c'est vraiment un peu dispendieux, une dizaine ou quinzaine de dollars, vous avez ça. Combien de pas? On peut commander, les personnes les plus sédentaires peuvent commencer à 2000 pas par jour. L'idéal, c'est d'aller à 10 000 pas. Bon, vous pouvez y aller graduellement, augmenter de 1000 pas par jour. Au bout de 6 mois, ben, on est rendu à 10 000 pas. Et si la perte de poids est également un bénéfice recherché, ben, on a à maintenir un niveau d'intensité un petit peu plus élevé. Alors voilà, c'est un petit rappel. Marcher pour sa propre santé, Denis Fortier, physiothérapeute.
Quand le soleil s'élevait sur un horizon lourd, dans la furie des feux qui brûlent l'innocence, mais dans le bruit tonnant qui voile les contours, tu as poussé ton chant par-dessus les silences. L'écho en retour ne t'a donné que des cendres et a chuchoté au dessein de tes méandres d'aller ton chemin. Tu peux marcher par où tu vas. Ton cœur est là, tout ramanché sous ton épaule. Te lâcheras pas. Tout ce que t'as compris, c'est qu'il fallait partir. Que si tu restais là, il ferait plus jamais beau. La vie a couché sur le ciel tous tes désirs. T'as traversé la mort sur un sombre radeau. La mer a pris tes rêves et la nuit ton espoir. Ce qu'il te reste ici, c'est la liberté noire d'aller ton chemin. Tu peux marcher par où tu vas. Ton cœur est là, ben accroché sur ton guidon, guide ton pas. T'as tout laissé là-bas pour pouvoir ériger le jour. Mais tes fantômes toujours te ramènent au combat. Ici, dans la lumière, t'as souvent les yeux sourds. Avoir ta vie dans le vieux rêve d'être chez toi. Le sol brisé de tes racines casse la route. Et à chaque heure, tu mesures ce que ça coûte d'aller ton chemin. Tu peux. Par où tu vas? Ton cœur est là, tout ramanché sous ton épaule, te lâchera pas. Tu peux marcher. Par où tu vas? Ton cœur est là, ben accroché sur ton guidon, guide ton pas. Ton cœur est là, tout ramanché sous ton épaule, guide ton pas.
David Portelance et sa chanson « Tu peux marcher ».
Et ça allait bien avec « Marcher pour sa santé », merci. Beaucoup. Peut-être la suite, hein, Mathieu. Merci beaucoup. Francine, vous allez nous entretenir, nous poursuivre dans...
Je continue dans l'univers numérique en parlant des antivirus. Parfois, on a peur que ça rende nos ordinateurs encore plus vulnérables. Alors, est-ce le cas? Il y a eu toutes sortes d'études là-dessus, certaines dont les conclusions sont rassurantes, d'autres plutôt inquiétantes. Alors, ce qu'on dit dans la Presse Plus, le reportage de Karim Benessaï du 5 janvier 2019, c'est que l'installation demeure un outil efficace pour prévenir les attaques les plus communes. Donc, l'antivirus, oui. Cependant, Marc-André Léger apporte une nuance. Ces protections peuvent donner un faux sentiment de sécurité. Il ne s'agit que d'un aspect parmi d'autres. Alors, en fait, la cybersécurité comporte justement plusieurs éléments, dont changer nos mots de passe sur une base régulière. Alors, M. Léger dit « Les gens ne suivent pas les conseils ». Ça fait pourtant 10 ans qu'on en parle. Alors, 10 ans, mais probablement plus.
C'est vrai.
Il est poli, comme on dit.
Oui, très poli, mais c'est parce que c'est pas facile de changer, mettre un mot de passe différent pour chaque dossier que nous avons.
Oui.
Moi, il va falloir que j'aille à côté de moi un fichier qui va contenir tous mes mots de passe. Là. J'ai comme
mais
un
il y a
peu
des
bizarre.
Gestionnaires. Hein, il y a des gestionnaires de mots de passe. Et de toute façon, je ne voudrais pas m'étendre sur le sujet, mais vous savez que maintenant, on recommande justement de faire ce travail, ne serait-ce que pour le joindre à notre testament.
Ah bon, ça? Ah ben ça, quelle belle idée! Un gestionnaire de mots de passe, puis joindre ça à notre testament pour
bien
que
imaginez,
les gens qui...
Ceux qui auront à s'occuper de votre succession, s'ils n'ont aucun mot de passe de votre ordinateur, fermez votre compte Facebook, etc., etc.
Connaître un pirate. Un pirate informatique.
Ouais, belle morale en ce début de 2019.
Nous vous revenons avec des sujets peut-être un peu plus sérieux après cette courte pause. Restez avec nous. Ça se continue avec Francine Mathieu et moi-même, Hélène Bédard. À tout de suite! Voilà, à nouveau. Francine, vous aviez quelque chose, parce que durant la courte pause, Francine veut nous mentionner quelque chose à propos des mots de passe. Je la laisse aller.
Bien, c'est un peu vous là, qui m'avez provoqué. Là, hein? On a continué la discussion. Alors, sur le mot de passe, l'utilisateur moyen doit gérer une trentaine de mots de passe. Hein? C'est pas rien. Et la tentation est grande d'utiliser le même partout ou de choisir des classiques. Moi, j'en connais qui le font, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein? On rajoute un petit quelque chose à la fin puis on se pense en sécurité. C'est une grave erreur qui explique pourquoi le piratage d'un seul site peut en contaminer des dizaines d'autres. La meilleure solution? Un gestionnaire de mots de passe. Alors, des experts comme Alexis Doré-Jonca le recommandent. Et outre son propre logiciel produit par la firme d'antivirus i7, il recommande aussi KeePass, Password Safe, LastPass est également recommandé. Donc, vous n'avez plus aucune raison, d'accord, Hélène, de ne pas avoir un gestionnaire de mots de passe.
Je note
voilà.
Tout ça. Merci beaucoup. En attendant que je me familiarise avec le gestionnaire de mots de passe, moi, je vais vous parler du marché du travail. Marché du travail pour les 50 ans et plus. Alors, est-ce qu'on est prêt à miser sur les 50 ans et plus? Il y a eu un forum le 13 novembre dernier par l'Association de gérontologie du Québec. Pourquoi? Parce que le Québec connaît une importante pénurie de main-d'œuvre. Je sais, on entend aux nouvelles, tout ça. Mais il paraît qu'il y a plus de 100 000 postes qui seraient à pourvoir en ce moment dans la province. Une partie de la solution passerait peut-être par un groupe de travailleurs peut-être un peu négligés, c'est-à-dire les travailleurs expérimentés. Cet événement, bien évidemment, ça suscitait la réflexion concernant cette embauche, ou peut-être pas juste l'embauche, mais le maintien aussi en emploi des travailleurs plus âgés. Ça s'appelait « La compétence n'a pas d'âge », et c'est sur la valeur de la part de la main-d'œuvre expérimentée. Parmi les participants du forum, il y avait le ministère du Travail, Conseil du patronat, des syndicats et des organismes en employabilité. La retraite, ça ne signifie pas nécessairement la fin d'un parcours professionnel. Pardon. Plusieurs souhaitent continuer à être actifs, mettre à profit leurs compétences, travailler même après 55, 65 et même 75 ans. Mais trouver un emploi à cet âge, ça relève de l'exploit quelquefois. Étonnant constat, quand on sait que 1,1 million de personnes vont quitter le marché du travail d'ici 2022. 2022, c'est pas loin, là. C'est dans 3 ans. Alors, la province doit trouver rapidement des solutions pour faire face à la pénurie. Les stratégies ne sont pas légion. Il y a soit l'immigration sélective, il y a soit la valorisation de la formation technique et professionnelle font partie de la poignée des petites mesures possibles. Les entreprises ont donc tout intérêt à se tourner vers les travailleurs expérimentés. On assiste actuellement à une dégradation des conditions de travail en raison du manque de personnel. La pression est énorme. Avec une équipe réduite, les entreprises offrent moins de congés, des horaires moins flexibles. Ce sont des conditions qui ne conviennent pas toujours aux employés plus âgés. Alors, le coût du recrutement freine l'embauche des candidats de 50 ans. Les entreprises croient qu'il est plus rentable de former un employé de 25 ans que quelqu'un de 65. Pourquoi? Puisqu'en théorie, il va rester plus longtemps. Pourtant, la main-d'œuvre plus jeune s'avère plus instable et moins fidèle à un employeur. Compter des salariés plus âgés dans son équipe comporte de nombreux avantages. Mine de connaissances, ils peuvent transmettre à leurs collègues. Des idées différentes, un point de vue à apporter, une équipe plus diversifiée, bien, tout ça, ça hausse la créativité puis ça soude aussi les membres. Il y a un palmarès qui existe des 30 meilleures personnes, 30 meilleurs performeurs en bas de 30 ans. Pourquoi on ne ferait pas la même chose pour les gens de les 50 meilleurs plus à 50 ans et plus, quelque chose comme ça? Offrir plus de flexibilité dans le travail et offrir plus de temps partiel, tout en évitant que le fisc réclame une bonne partie de leurs gains. Ça serait aussi quelque chose qui soit intéressant pour les gens expérimentés. Le réseau FADOC a mis sur pied aussi une plateforme web pour les 50 ans et plus. Bien, depuis sa création, depuis 2 ans, il y a plus de 250 candidats et 350 employeurs qui ont utilisé le service. C'est pas rien tout ça. Et puis l'AQG, l'Association de génération, propose aussi une trousse disponible gratuite en ligne pour outiller les entreprises dans la mise en place de mesures pour favoriser l'embauche, le maintien ou le retour en emploi des 50 ans et plus. L'association espère convaincre au moins 120 employeurs d'utiliser ces pratiques. C'est un pas dans la bonne direction. Reste à espérer des actions plus concrètes, comme par exemple pour les 50 ans et plus, en phase avec les besoins du marché et ceux de la population vieillissante. Alors, à suivre et... Pour tous ceux que ça concerne, j'ai trouvé cet article fort intéressant dans avenue.ca. Francine, ma fidèle Francine, alors, où nous amenez-vous maintenant?
Dans l'espace. Alors, comme je te disais en introduction, Virgin Galactic, alors dont le propriétaire est Richard Branson, alors qui rêve depuis longtemps, n'est-ce pas, de l'espace, de faire du tourisme spatial, eh bien, il a gagné son pari. Si l'on en croit un article publié dans Paris Match et rapporté dans la presse plus du 30 décembre 2018, l'auteur Bertil Scali. Virgin Galactic a envoyé 2 astronautes dans la stratosphère. Dans quelques mois, la balade sera offerte à tous, semble-t-il, moyennant 250 000 $. Alors, je ne sais pas si nos points aéroplans ou Air Miles vont pouvoir nous aider à y aller. Bon, alors c'est dans le ton Paris Match, évidemment. Dans la nuit glacée du 13 décembre, Mark Stuckey, qu'on appelle le Forger, 60 ans, avale un yaourt, attrape son cher paquet de fromage effiloché et prend la route en direction de Faith, en Californie, le Cap Canaveral miniature créé par Virgin en 2015. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec l'espace. Si tout se passe bien, il va entrer dans la légende des pionniers de l'aviation. À 7 heures, Forger et CG, en fait, c'est la personne qui l'accompagne, grimpent dans le Spaceship 2. C'est une navette suspendue sous l'aile de 42 mètres de l'avion porteur White Knight 2. Moteur en marche, Forger n'entend pas les cris et les applaudissements du public au bout de la piste. Il ne voit pas non plus Richard Branson, 68 ans, qui sourit en le regardant passer, mais qui retient aussi ses larmes. Cela se fait 14 ans que Branson parle d'envoyer des touristes dans l'espace. 14 ans que les médias se gaussent. Sam, son fils de 33 ans, l'observe inquiet. Depuis les premiers rêves, il y a eu le drame de 2014. En fait, qui avait été un échec total et qui a causé des morts, je le résume brièvement. Les accusations de négligence, même si l'erreur de pilotage a ensuite été établie. Parents et amis, journalistes, futurs clients, employés de Virgin Galactic ou simples curieux, tous le savent. Et se demandent, faut-il se réjouir tout de suite ou avoir peur? Vont-ils vivre une journée historique ou une tragédie en direct? C'est le décollage. Le sol s'éloigne. Forger transmet l'ordre, après une montée en altitude réussie, transmet l'ordre de déclencher le réacteur. Depuis un appareil suiveur, le pilote Kelly Latimer voit la navette s'éloigner. Spaceship 2 est un véritable avion de l'espace, avec un authentique pilote pour tenir le manche à l'ancienne, et non comme un astronaute qui n'a aucun contrôle sur sa fusée. À l'intérieur, Forger et son compagnon sont collés à leur siège. « Bon allumage de réacteur à tous. Nous allons dans l'espace, Richard », lance Forger. La navette accélère, frôle les 1000 km/h. Face à elle, les ondes forment une résistance, un mur que sa pointe enfonce, distord. Elle ricoche sur la structure et les ailes, déclenchant secousses et vibrations. On vient de dépasser match 1. Le mur du son a été percé. Forger peut donner l'ordre de déverrouiller les ailes. CG déclenche le mécanisme, ils retiennent leur respiration. Cette milliseconde dure très longtemps. Et comme prévu, la navette poursuit calmement son ascension, accélérant encore dans sa fuite de l'attraction terrestre. À quelques dizaines de kilomètres au sol, Branson pleure de joie. Le réacteur va propulser la navette presque à la verticale. En moins d'une minute, elle atteint presque 3 fois la vitesse du son. Et c'est bientôt la frontière ultime entre terre et espace. Le ciel a disparu. Plus de bleu au-dessus des yeux, seulement le noir du cosmos. C'est réussi. Les sacrifices n'auront pas été vains. Alors, c'est un article de la Presse Plus, mais en fait de Paris Match, rapporté dans la Presse Plus, qui parle de ce rêve, en fait, de Richard Branson, qu'il est en train de réaliser.
Et que j'ai aimé ça.
C'est beau, merci. Hein? L'espace. Merci.
Les étoiles, les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi j'ai vos regards. Les étoiles, les étoiles, dites-moi étoile qui vous regardera. Pour l'auto, 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 l'auto. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rodo, lado, lado.
Mélodie Gardeau, les étoiles.
Oui, merci, merci Mathieu. Il se passe bien des choses durant les petites pauses musicales, hein, voilà.
Alors, oui, moi, je m'excuse Hélène, oui? C'est probablement l'espace qui vous a perturbé et Mathieu qui enchaîne avec les étoiles, là, vraiment.
C'est tout ça mis ensemble, ça fait une atmosphère fort agréable, je dois vous dire ça. Je suis contente de vous les partager, ces beaux moments. De l'autre côté, moi, je vais vous partager une étude que j'ai trouvée fort intéressante. Le temps des fêtes, les festivités du temps des fêtes vient de terminer, mais, on a beaucoup acheté. Alors, j'ai un article ici, une étude, en fait, qui a été faite. Ça s'intitule « Les hormones qui nous font acheter ». Je vous emmène avec moi là-dedans. Alors, exposer les clients à des photos d'hommes musclés ou de femmes séduisantes suffirait à pousser à la surconsommation, soi-disant. Telle est la conclusion d'une étude qui ouvre grande la voie à la manipulation biologique de nos préférences. Voici Stéphane Mayotte qui nous explique ceci. Il est vice-président de la stratégie à Havas Montréal et chroniqueur média et de marque à Radio-Canada. Je vous en parle. Vous rentrez donc du centre commercial avec vos emplettes. Vous avez acheté plus que prévu et vous avez aussi opté pour des produits plus luxueux et plus ostentatoires qu'à l'habitude. Votre partenaire vous interroge sur votre soudain matérialisme. Vous répondez que c'est la faute des hormones et surtout du portier. C'est en tout cas, c'est la conclusion du Harvard Business Review. Le chercheur a comparé la consommation des clients avec et sans la présence d'un homme imposant physiquement à l'entrée du commerce. Alors que la présence de l'Hercule en question n'a pas modifié le comportement d'achat des femmes, elle a incité les messieurs à dépenser beaucoup plus. En présence, ils ont expliqué ça ainsi, en présence de ce rival très visible, les messieurs ont acheté en moyenne 165 $ de biens par rapport à seulement 92 $ chez les autres. Une augmentation des achats aussi importante qu'inconsciente. Selon les chercheurs, c'est la volonté de ces messieurs de signaler leur statut face à ce concurrent potentiel qui a fait ouvrir le portefeuille et a amené à l'acquisition de ces biens. Le responsable biologique de ce comportement inconscient serait, attention, la testostérone. Excusez-moi, c'est tellement rigolo cette étude quand même. Les marques peuvent influencer donc nos hormones. Par exemple, le niveau de testostérone grimpe dans certains contextes, comme les compétitions sportives, les expériences de consommation, par exemple à la conduite d'une voiture luxueuse. Et je pense que finalement, tout ça, ça m'apparaît un peu vrai, là, tout ça. Créer le contexte idéal pour l'achat est au cœur de la pratique marketing. Ça ouvre donc la porte à une manipulation biologique de nos préférences. Ça soulève aussi une série de questions éthiques, il va de soi. La simple présence d'images peut influencer nos préférences. est exposé à des hommes costauds, comme je le disais. Bon, ça pousse à une consommation plus ostentatoire, des vêtements arborant des logos plus imposants. De la même façon, lors des tests, les femmes ayant regardé des images de femmes plus séduisantes ont eu tendance à surconsommer des produits pour maintenir leur poids, privilégier l'activité physique et même opter pour des produits de beauté comme des autobronzants. Certains commerces peuvent attribuer des vendeurs particulièrement grands aux hommes de petite taille dans l'espoir de leur volonté de rivaliser leur face, ouvrir leur portefeuille. Au-delà de l'aspect moral de la chose, il faudrait évaluer le niveau de satisfaction de ses clients quant à l'expérience entière et de projeter surtout leur propension à remettre les pieds dans le magasin. Ça, c'est pas bête, hein? Une manipulation à court terme ou bien une fidélité à long terme? Voici une excellente question. Alors, Francine de l'espace, nous entendez-vous?
Oui, je vous entends. Je reviens sur Terre. Je vous parle de Microsoft. C'est la chronique Technopop de Chloé Frelon dans Québec Science, janvier-février 2019. Un ordinateur sur chaque bureau, dans chaque foyer, c'était la devise choisie par Bill Gates en 1975, hein, rappelons-nous, à la fondation de Microsoft. Pendant longtemps, on a associé spontanément les ordinateurs personnels à la multinationale. Mais avec les années, sa réputation s'éternit. En 2014, l'entreprise était plutôt réputée pour sa culture toxique et ses querelles internes. Microsoft était un géant en déclin. Cette année-là, Satya Nadella a remplacé Bill Gates. Le nouveau président-directeur général s'est donné pour mission de redresser la culture organisationnelle mais aussi de relancer les développements technologiques. Car Microsoft a raté 3 changements majeurs survenus au cours des dernières années. L'avènement des téléphones intelligents avec l'iPhone, la suprématie du moteur de recherche Google et les médias sociaux, Facebook en tête. Résultat des courses, une génération entière a grandi sans avoir jamais utilisé un produit Microsoft. C'est incroyable, mais c'est vrai. Ceux qui sont nés au début des années 90, pour eux, il n'y a qu'Apple qui existe.
Ben oui.
Oui, oui. Dans les années 1990, tous les produits de l'entreprise fonctionnaient en circuit fermé dans l'univers Microsoft qui protégeait ses outils coûte que coûte. Aujourd'hui, on peut exécuter des applications Windows sur un iPad ou sur un Android. Le changement de mentalité a été tel que l'an passé, Microsoft a acheté GitHub, une plateforme de développement où le code source est ouvert à tous. La compagnie organise également un marathon de programmation de 3 jours avec ses 23 500 employés. Et voilà des pratiques innovantes. Et l'innovation, c'est le nerf de la guerre dans les technologies. Intéressant de voir qu'on est passé de l'application dans les technologies à l'application dans l'organisation.
Oui.
Finalement, là, on implante ce qu'on prêche. Comment Satya Nadella a-t-il réussi ce virage? À l'aide d'une approche douce. L'un de ses premiers gestes en tant que PDG a été de demander aux dirigeants de la société de lire la communication non violente au quotidien de Marshall B. Rosenberg, un petit traité sur la collaboration respectueuse avec les autres. Satya Nadella est convaincu que les êtres humains sont empreints d'empathie, ce qui est essentiel pour créer des produits audacieux qui auront une influence sur les utilisateurs. La stratégie fonctionne. Les revenus annuels de Microsoft ont dépassé les 100 milliards de dollars en juin 2018, ouf, les plus élevés en 43 ans, et la capitalisation boursière de l'entreprise a détrôné celle d'Apple. Satya Nadella n'est peut-être en fait qu'un leader de son époque, quelqu'un qui dirige non pas en imposant sa volonté, mais en faisant preuve d'écoute auprès tant de ses employés que des consommateurs. Le Microsoft des années 1990 n'est plus... Vive le Microsoft d'aujourd'hui. Chloé Frelon, Technopop, Québec Science, janvier-février 2019.
Qu'est-ce que ta petite tête, tu cherches la bagarre. Vaudrait mieux que t'arrêtes avant qu'il soit trop tard. Je sais, je suis pas grande, mais j'ai la main leste. Si tu en demandes, tu seras pas en reste. Je te règle ton compte sans que t'aies pu dire ouf en moins d'une seconde. Je t'assois dans ton pouf. Déjà tout bébé avec mes petits poings, je fais semblant de boxer, c'était mon instinct. Dans les cours d'école, j'étais la terreur. Je te jure que personne embêtait ma sœur. Un jour, une picore m'a piqué mes billes, elle le regrette encore. Avec ses béquilles, badaïa-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di Puis ce fut le temps des premières amours, des billets galants et des troubadours. Un jour mon lapin me lâche une injure, blanc et reçoit ma main à droite la figure. Il dit bon apôtre, je t'en l'autre jour, il en reçoit une autre sur la gauche. Et tout paya balidarina bama ba. Avec l'air arrogant, il avait trop bu, je le faisais rire. Mais celle qu'il a reçue, il l'a pas vu venir. Puis quelqu'un me dit que c'était un poète. Moi la poésie, j'aime qu'elle me respecte. Cette chanson n'est pas une chanson violente, ce sont quelques faits de la vie courante. Comme il faut toujours tirer bon parti des humeurs d'un jour, je dirais ceci: si quelqu'un t'attaque ou quelqu'un te choque, mieux vaut une petite claque plutôt qu'un grand choc.
Christine Tassin et les imposteurs, et c'était la chanson non violente.
Merci, merci Mathieu. Mais moi, je vais vous parler, non pas de violence ni de non-violence, mais je vais vous parler d'infidélité financière. Ah, vous connaissez? En tout cas, moi, je ne connaissais pas, mais je vais vous faire part de mon texte. C'est un texte qui a été publié par SSQ Assurance. Parlez avec votre douce moitié, parlez d'argent avec votre douce moitié. Est-ce que ça vous rend confortable? Ben, vous n'êtes pas seul, si vous avez répondu oui, évidemment. Est-ce cela de l'infidélité financière? Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a un sondage qui a été mené en ligne pour le compte de Crédit Canada. Il dévoile que plus de 36 % des Canadiens, donc plus du tiers, ont déjà rencontré un mensonge financier à leur partenaire de vie. Et quels sont ces mensonges? C'est cacher des dépenses à leur conjoint. Ils ne dévoilent pas le vrai revenu. Ils gardent secret leur situation financière, ce qui peut placer le couple ou la famille dans une situation quelquefois précaire. Les conjoints les plus endettés, paraît-il, sont les plus enclins à cacher des secrets financiers à leur compagne ou leur compagnon. La raison évoquée, c'est que le sujet est tabou. C'est-à-dire, parler d'argent, ça ne se fait pas. Ça, on l'entend souvent. Les discussions sur l'argent causent un stress important, donc moins ils en parlent, moins ils y pensent, puis mieux tout le monde se porte. Besoin d'indépendance. Les finances constituent l'une des principales causes de disputes et de divorces. Alors l'argent, parlons-en. Se retrouver en couple avec une personne dont on ignore la relation à l'argent, c'est pas souhaitable. Il faut connaître la façon dont l'autre gère ses avoirs. Il faut posséder une idée assez précise de sa situation financière. Puis il faut aussi discuter de sa vision au regard de l'épargne, de l'endettement ou de la retraite. Si votre nouvelle flamme est à l'aise avec l'idée d'être endetté alors qu'une telle situation vous empêche de dormir la nuit, réfléchissez bien avant de faire vie commune, car la transparence est de mise. Alors voilà, c'était juste une courte réflexion. Et Dieu sait qu'on se l'est fait dire, l'argent, ça se... on ne parle pas de ça, on ne parle pas de notre salaire. Il y a bien des choses qu'on garde tabou.
Ah oui. Il paraît que... je crois qu'on avait lu un dossier ici concernant justement le fait que les conjoints qui sont parfois sur le bord de la faillite, ouais, n'en parlent pas toujours, pas du tout. Mais des fois, c'est une surprise pour l'autre.
Et voilà. Écoutez, je vous laisse sur cette réflexion. Nous demeurons quand même positifs parce qu'on revient vendredi prochain. Restez avec nous. Merci tout le monde. Merci. Merci Mathieu. Merci Francienne. À la semaine.
Ça fait plaisir, Hélène.
À la semaine prochaine.